Alors, j'avais envie de commencer par un petit sondage. Michael dit que ça va être... Attendez. Hop. Michael disait qu'on allait avoir envie de lire le livre de l'Ecclésiaste ensemble pendant cette année. Qui parmi vous a déjà lu le livre de l'Ecclésiaste ? Voilà. Qui l'a lu dans les 12 derniers mois, dans l'année scolaire qui est passée? Voilà, il y en a un peu moins, mais il y en a encore. Qui ne l'a jamais lu? Voilà. Merci. Donc on va le lire ensemble. Et ceux qui l'ont lu, peut-être que quand Michael va dire qu'on va passer un bon moment ensemble à l'étudier, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que disait Michael. Un bon moment à lire le livre de l'Ecclésiaste. C'est un livre un peu particulier. Et ce matin, on en fait une introduction. On va lire le début du livre, le chapitre 1, et versets 1 à 11. Vous pouvez écouter la lecture, suivre dans vos Bibles comme vous le souhaitez. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 à 11. Parole de Qohélète, fils de David, roi à Jérusalem. Futilité complète, dit Qohélète. Futilité complète. Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire au lieu d'où il se lève. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant va le vent, et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont à la mer, et la mer n'est jamais remplie. Tout est fatigant. Plus qu'on ne peut dire. L'œil n'est pas rassasié de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Regarde, c'est nouveau » Elle était déjà là bien avant nous. Il n'y a pas de souvenir du passé. Et ce qui sera dans l'avenir ne laissera pas non plus de souvenirs chez ceux qui viendront par la suite. Jusqu'ici, notre lecture. Comment est-ce que vous recevez cette lecture, ce livre? Est-ce que vous le recevez avec l'enthousiasme partagé par Michael? Et pourtant, je pense qu'il y a non seulement une utilité à ce livre, mais aussi qu'on peut y trouver de la joie, de la paix à le lire, et qui mérite notre envie de le lire et de l'étudier ensemble. Ce passage que nous avons lu, c'est l'introduction du livre. Vraiment, dans ce passage, Qohélète qui écrit annonce un peu le programme de ce qu'il va dire par la suite. Qui est Qohélète? Dans ma traduction, c'est Qohélète qui est utilisé. C'est utilisé comme un nom propre dans le texte original. Mais c'est aussi quelque chose qui a une signification. Le sage, le maître, le prédicateur, celui qui sait. Donc même si c'est utilisé là comme un nom propre, ce n'est pas forcément le prénom de celui qui l'a écrit. C'est quelqu'un qui se présente comme étant un maître de sagesse, quelqu'un qui a observé les choses et qui nous présente ses conclusions. Et on arrive au verset 2. « Futilité complète », dit Qohélète, « futilité complète ». dans les versions plus anciennes, traditionnelles, c'est « vanité des vanités ». Ce verset, il est important, c'est un peu la thèse du livre. C'est ce qui va développer dans la totalité du livre. Et ce verset est répété mot pour mot à la toute fin, au chapitre 12. Vanité des vanités, futilité complète. On trouve d'autres traductions. Dérisoire, inconsistant, de la fumée. Le mot dans le texte hébreu n'est pas facile à rendre. Déjà, c'est un superlatif. Ce n'est pas un mot juste comme ça, c'est plus encore. Vanité, vanité ultime, vanité extrême. C'est un terme qui est utilisé 38 fois dans le livre de l'Ecclésiaste. Plus de la moitié de toute son utilisation dans l'Ancien Testament. Vraiment un terme qui marque ce livre. C'est un mot qui décrit ce qui est fragile, ce qui est futile, dérisoire. Quand on le lit en français, on a l'impression d'un terme péjoratif qui vient critiquer tout, un peu nihiliste, qui a une impression de jugement, une sentence, tout est vain, tout est inutile, ça ne sert à rien. Mais pour rendre justice au texte, aux mots choisis, ça souligne plutôt le côté éphémère, qui passe, qui ne dure pas, qui marque, qui ne marque pas, et donc qui déçoit également. C'est un mot qui décrit la buée, qui peut être comme ça, mise sur une vitre. Elle est là un temps et elle disparaît, sans avoir laissé de traces. Je pense que c'est une bonne image pour comprendre ce que veut dire le sage, ce que veut dire Qohélète quand il utilise le mot « vanité », quelque chose qui ne dure pas, de la buée. Il y a un autre mot, une autre expression qui revient de nombreuses fois tout au long du livre et qu'on trouve dans cette introduction, c'est « sous le soleil ». On la trouve à 29 reprises dans le livre, « sous le soleil ». Ce dont parle le sage, c'est ce qui se passe sous le soleil, ce qui se passe sur cette terre, ce qui se passe dans cette vie, dans les conditions dans lesquelles on vit. Dans cette vie, l'homme ne reste pas. Il vit, il meurt, il passe, il ne laisse pas de traces. C'est la thèse du livre et Qohélète va la développer en examinant différents domaines de la vie, différentes choses. Rien de ce que l'homme ne fait sous le soleil ne laisse de traces. C'est là la condition humaine. C'est un discours auquel on a peu l'habitude dans la Bible. Quelle place a un tel livre dans la révélation biblique? C'est un livre singulier dans un corpus singulier. Ce livre fait partie des écrits de sagesse et déjà les écrits de sagesse, ils sont un peu particuliers dans la Bible. On y trouve les proverbes, ça c'est vraiment le livre le plus caractéristique des écrits de sagesse. Il donne des conseils sur comment vivre. Et des conseils qui sont applicables même pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Des conseils qui sont bons à suivre. De la sagesse. Dieu y est présent, mais on sent que ce que nous dit ce livre de Proverbes, c'est que on peut, en suivant ses conseils, avoir une bonne vie. Une liste de choses à appliquer. Mais ces conseils ont aussi des limites. Et dans ce groupe de livres, des écrits de sagesse, il y a deux livres qui viennent mettre en évidence les limites de cette sagesse. Pardon. Peut-être qu'on ne les lit pas assez, qu'on ne les met pas assez en relation. Ces deux livres, c'est le livre de Job et le livre de l'Ecclésiaste. Job vient montrer qu'il y a des fois, y arrive des malheurs, de la souffrance qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. Et même avec la sagesse, on ne peut pas, comprendre, expliquer. Le livre de Job vient de dire qu'il y a des moments où les sages doivent se taire et laisser Dieu parler. Et le livre de l'Ecclésiaste, il vient montrer une autre limite de la sagesse. Il semble avoir été écrit dans une période de prospérité. L'auteur dit n'avoir manqué de rien, avoir goûté à tout. Et entre parenthèses, une période de prospérité, c'est un peu comme ce qu'on vit. On peut se plaindre de ne pas avoir assez, on peut voir nos difficultés. Mais si on est honnête, nous qui vivons dans cette partie du monde, nous sommes privilégiés de par l'accès à tout ce que nous avons. Et dans cette période de prospérité, où globalement on manque de rien ou pas grand-chose, le Qohélète dans le livre de l'Ecclésiaste vient montrer que ça ne suffit pas. Il reste un manque, il reste un trou. On se rend compte que la prospérité ne suffit pas. Ce livre, je posais la question, à quoi est-ce qu'il va servir dans la révélation biblique? Ce livre, c'est comme un bain purificateur, quelque chose qui va nous laver, nous débarrasser des fausses illusions. En préparant cette prédication, je lisais un de mes auteurs préférés, Eugène Peterson, qui disait que le livre de l'Ecclésiaste fonctionne non pas comme un repas, mais comme un bain. Il ne nourrit pas, il purifie. Il est repentance, il purge. Et on a besoin, parfois, de se nettoyer. On a besoin de se plonger dans le livre de l'Ecclésiaste. Olivier Randall, un prédicateur qui a œuvré dans cette église il y a 20 ans, comparait le livre de l'Ecclésiaste à un bain d'acide qui nettoie, qui décape. Comme l'acide, il faut le manipuler avec précaution, ça peut faire des dégâts, mais bien utilisé, ça nettoie profondément. Que dit notre texte? Comment le comprendre? Je vous avoue que j'ai eu quelques difficultés à l'aborder. Je l'ai lu et je l'ai relu. Chercher à comprendre dans le détail, et plus je m'accrochais au détail, plus il m'échappait. Et j'ai l'impression que ça vaut le coup de prendre un pas de recul, de se laisser imprégner de tout ce qu'il dit et de méditer ce qu'il nous le dit globalement. Et ce texte nous dit déjà que l'homme ne change pas le monde. Il ne laisse pas de traces. La terre continue de tourner. La succession de générations humaines n'apporte pas de changement fondamental au monde, ni à la condition humaine. On a cru à l'humanisme que l'homme irait de mieux en mieux, qu'avec l'éclairage des lumières, de la philosophie, on allait mieux vivre ensemble. Mais malgré tout ce qui a été promis, malgré les droits de l'homme, il y a toujours des esclaves, des guerres, des personnes plus faibles qui sont maltraitées par les plus forts. On a cru au progrès, à l'apport de la médecine, mais l'homme meurt toujours. Moïse disait dans le psaume 90 que l'homme vit 70 ans, 80 pour les plus robustes. Peut-être qu'aujourd'hui, un peu plus de monde atteint cet âge, mais globalement, ça n'a pas trop changé, n'est-ce pas? On a cru à l'apport de la technologie. On peut faire de plus en plus de choses, aller de plus en plus vite, de plus en plus loin, faire des choses plus complexes. Mais il n'y a pas moins à faire. Il y a toujours autant. On trouve toujours autant de choses à faire. Ce livre vient nous dire également que, d'une façon générale, rien n'est fondamentalement nouveau. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on croise, quelque part, ça a déjà été fait. Cette parole, elle est dure car l'homme croit aux avancées. Il y a des choses dont on dit « Waouh, ça c'est vraiment nouveau !» Mais ce que dit le sage, c'est que si on regarde bien, c'est toujours les mêmes problèmes qui sont abordés et des réponses toujours identiques qui sont apportées. Ça semble différent, mais finalement, quand on gratte, c'est la même chose. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on s'émerveille autour du sujet de l'intelligence artificielle. ChatGPT. On peut lui poser des questions, il répond. Il scanne la connaissance mondiale pour apporter une réponse intelligente à nos questions. Il dit aussi quelques bêtises parce que la connaissance mondiale en contient, mais quand même, c'est bluffant. J'ai essayé et je suis séduit. C'est une prouesse technologique. Et les collégiens, les lycéens, les étudiants se prennent à rêver que ChatGPT fasse leurs devoirs à leur place. Mais est-ce vraiment nouveau? Il y a 20 ans, nous découvrions avec enthousiasme Wikipédia, un lieu où tout le monde mettait le savoir. Tout s'y trouverait. Et les écoliers, les collégiens recopiaient sans vergogne des pages entières pour leurs exposés. À mon époque, on allait dans les bibliothèques, au CDI, pour rechercher des ouvrages aussi à recopier. Ça prenait plus de temps, mais au fond, les mécanismes étaient les mêmes. Et c'est une histoire vieille comme le monde. J'évoquais Job tout à l'heure. Dans la Bible, c'est écrit millénaire. On trouve la même chose. Il y a Job à qui il arrive une série de malheurs dingues et sous le soleil, il ne lui est pas donné de comprendre pourquoi ça lui arrive. Mais il a des amis. Il y a des amis qui viennent et qui lui sortent tout un tas de vérités sur Dieu, des vérités qu'ils ont ramassées et qui lui sortent comme ça sans aucune sensibilité et qui sont complètement hors sujet. Il n'y a rien de nouveau. Il y a toujours des mécanismes où on ramasse la connaissance et on la recrache. Alors aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. Mais ce n'est pas nouveau, sous le soleil. Cette affirmation, rien de nouveau, est une affirmation lourde qui nous invite à la réflexion. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous être nouveau ? Je vous invite à vous interroger. Est-ce vraiment nouveau ? Troisième chose que le sage dit dans ce texte, l'homme n'est jamais satisfait. Il a beau se démener, il en veut toujours plus. Son œil veut toujours plus voir, son oreille toujours plus entendre, quelle que soit sa quête. S'il court après l'argent, il en voudra toujours plus. Interrogé sur la question à partir de quand peut-on. Enfin, qu'est-ce que c'est assez d'argent ? Le banquier Rockefeller aurait répondu : c'est un peu plus. S'il court après l'amour, recherchant la femme parfaite ou l'homme parfait, il n'arrivera pas à être satisfait. Il y a toujours un nouveau partenaire, une nouvelle personne à essayer. C'est sans fin. S'il court après la technologie, avoir l'appareil le plus performant, le meilleur équipement, là encore, c'est sans fin. Il y a toujours une nouvelle voiture, plus performante, mieux équipée, toujours une perceuse meilleure que la précédente, un téléphone, un nouvel iPhone qui sort. Il y a toujours mieux. C'est ainsi pour tout. Pour le voyage, il y a toujours des destinations non atteintes, des choses qu'on n'a pas encore vues. Pour les performances sportive, on peut toujours aller plus vite, plus haut, plus fort. La popularité. On peut toujours être plus connu, avoir plus de followers. Le pouvoir. Là aussi, on en veut toujours plus. L'homme ne peut jamais dire « ça y est, c'est terminé, je suis arrivé ». Quelle frustration! Et du coup, le sage interroge « l'homme travaille toute sa vie, quel avantage cela lui donne-t-il ?» Quand il dit « l'homme travaille », ça ne veut pas dire, il ne parle pas de pointer à l'usine. Le travail, ce n'est pas l'emploi rémunéré, le travail, c'est tout le mal qu'il se donne jour après jour. Tout l'effort qu'il fait pour laisser une trace, pour changer les choses, mais à la fin, qu'est-ce que ça change? Et c'est ce que le sage, ce que Coëlette va développer tout au long de son livre, ce qu'on va étudier dans les groupes de maison, sujet après sujet, l'argent, le pouvoir, le travail, la sagesse, etc. Est-ce que ça change vraiment les choses, ces quêtes? Sa thèse, vous la connaissez désormais, il nous l'a livrée au début. Futilité complète, de la buée. Rien ne dure, rien ne s'installe, rien ne laisse de traces. La vision du sage est assez peu réjouissante. On aimerait laisser une trace. On aimerait servir à quelque chose. Est-ce que notre passage ne change vraiment rien? Est-ce qu'il n'y a rien qui change jamais? Je crois qu'il y a une chose qui échappe au raisonnement de Coëlette et qui a véritablement changé la face du monde. C'est la venue de Jésus, qui est arrivé après lui. Et ça ne vient pas invalider ce que dit le sage. Le sage parlait de ce qui se passe sous le soleil. Et avec Jésus, on sort de ce cadre de sous le soleil. Avec Jésus, le ciel, qui est au-dessus du soleil, est venu sous le soleil, sur la terre, pour changer radicalement les choses. Jésus, Dieu le Fils, est venu. Il a marché parmi nous. Et les choses ont radicalement changé. Il a réconcilié l'homme avec Dieu. Par lui, les péchés, le péché est pardonné. Et cette vie sans sens, entachée du péché, trouve un sens, trouve un but, trouve une direction, la réconciliation avec Dieu. Jésus dit que celui qui croit en lui ne mourra pas, même s'il meurt. Cette parole est mystérieuse, mais Jésus nous sort de l'inconsistance de la buée qui ne laisse pas de traces. Il nous offre de rester éternellement. Et même dans cette vie, sous le soleil, Jésus vient changer les choses. À ceux qui sont fatigués par toute l'activité qui ne produit rien, il vient dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, je vous donnerai le repos, dit-il. Prenez sur vous mon joug, c'est-à-dire mon enseignement, laissez-vous instruire, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour tout votre être. » Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant et le fardeau que je vous propose est léger. Jésus fait sortir de cette fatigue, de cette quête sans fin. À ceux qui se rendent compte que rien ne reste, que tout s'efface, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni mites ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Ce que tu produis, peut rester si tu le produis au bon endroit. Et Paul, en prenant du recul dans l'Épître aux Romains, a cette parole qui fait référence à l'Ecclésiaste. Il dit « La création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien, la futilité, la vanité. La création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. » C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La Bible promet que ce monde qui tourne en boucle, le soleil qui se lève toujours au même endroit, qui se couche et qui refait un tour sans fin, l'eau qui s'écoule dans la mer qui ne sera jamais remplie, tout ceci, toute cette futilité, ça aura une fin. La terre sera délivrée de cette existence sans sens le jour où Jésus reviendra. C'est l'espérance chrétienne. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous attendons. Quand je disais que la lecture de ce livre pouvait être pleine d'espérance, voilà à quoi il sert. Il nous aide à fixer les yeux sur cette espérance à venir en étant moins distrait par ceux qui nous entourent, ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont l'air si bien, qui brillent, qui clignotent, qui nous dit « Viens, essaye, tu vas voir, c'est bien. » Le sage Qohélète qui a vécu avant nous dit « Ça ne change pas fondamentalement les choses. Ce n'est pas ça dans lequel il faut placer son espoir. » L'auteur Georges Bernanos a écrit « Pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe. Pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut être prêt à désespérer de tout ce qui trompe. » Voilà à quoi sert le livre de l'Ecclésiaste. Pour espérer en Jésus-Christ, en son retour, garder nos regards sur cette attente, nous avons besoin d'aide de la part du sage, pour ne pas nous laisser distraire par toutes les courses vaines, futiles de ce monde. Je le disais, le livre de l'Ecclésiaste, c'est un bain purificateur, un bain décapant. Il nous rappelle et il nous rappellera semaine après semaine dans son étude que rien ne mérite de nous distraire, de garder nos yeux fixés sur Jésus. Sous le soleil, tout est futile, rien ne dure. Mais Jésus a ouvert la porte du ciel. Il nous promet, il nous permet dès aujourd'hui de nous y projeter. Loué soit-il pour cette possibilité qu'il nous donne. Je vais prier.